Bonjour, nous l'avons vu dans l'épisode précédent, le viager n'est pas un simple pari sur la mort. C'est souvent, très souvent, une solution éthique vraiment et utile pour le vendeur qui cherche à rester dans son appartement ou dans sa maison, tout en profitant d'un complément de retraite. Alors, bien sûr, avec une part de hasard évidente, c'est un investissement en moyenne, en général, intéressant, car la vente en viager est décotée de 30 à 70% de son prix parfois, même si c'est très rare, et ça permet de faire de belles affaires. Il faut savoir qu'en plus, il existe de nombreux biens qui sont proposés en viager par des gens qui veulent vendre, mais il y a peu d'acheteurs, donc il y a sans doute une marge de négociation importante sur cette décote. Ici, c'est Marian pour le podcast FAQ Immobilier par Grid Paris. Et dans cet épisode, nous allons voir en détail le fonctionnement d'un achat en viager du point de vue de l'acheteur. Alors déjà, il faut connaître les types de viager. Il en existe globalement trois, et le plus répandu, c'est le viager occupé, c'est-à-dire que le vendeur occupe le logement jusqu'à son décès ou son départ en maison de retraite par exemple. Ça, c'est le plus courant. Mais il existe aussi le viager libre. Le viager libre, c'est un bien immobilier vide qui permet à l'acheteur de l'habiter ou de le louer immédiatement au moment de l'achat. Il existe enfin le viager à terme, avec l'achat d'un bien immobilier dont le nombre d'années est défini à l'avance, par exemple 12 ans, 15 ans. Et dans 12 ans et 15 ans, l'acheteur connaît déjà le coût global définitif de son investissement. Ici, l'aléa réel, c'est celui du décès du vendeur. Parce que même si on sait à l'avance combien on aura payé l'appartement, on ne sait pas combien de temps le vendeur va rester dans l'appartement. Bon, il faut savoir quand même qu'en réalité, à 95% du marché, les viagers sont faits de façon standard, à savoir le viager est occupé jusqu'au décès du vendeur et l'acheteur paye une rente jusqu'à la mort du vendeur. Alors, même si on a tous une idée des grandes lignes, il n'est pas inutile de répéter et récapituler le fonctionnement du viager. Le viager lui permet à un propriétaire d'un bien immobilier de le vendre à l'avance et de rester dedans à vie. Ça correspond toujours à un contrat de vente immobilière classique, c'est signé devant un notaire, c'est juste les modalités de paiement qui seront différentes. Et cette vente, elle est composée de deux parties. D'une part, une somme fixe initiale, qu'on appellera le bouquet, et puis aussi, également, d'une rente. Une rente mensuelle jusqu'au décès du vendeur. Alors oui, le viager a donc obligatoirement un élément incertain aléatoire, qui est la date du décès du vendeur. C'est pas prévisible dans un viager. C'est donc un pari pour les deux parties, mais on l'a déjà vu, ce pari n'exclut pas le fait que c'est assez éthique, autant pour le vendeur, qui est très intéressé par le fait de pouvoir profiter de son appartement et quand même de profiter de l'argent de la vente, que l'acheteur qui n'est pas à l'abri de faire un bon coup. Alors, concentrons-nous un peu sur le bouquet. Le bouquet, cet apport que l'acheteur paye au moment de l'achat du bien immobilier, au tout début de l'achat. Alors, même s'il n'est absolument pas obligatoire, d'une manière générale, il représente 20 à 30% de la valeur du bien, telle qu'elle est définie. Et c'est défini totalement librement d'ailleurs, mais ça sera plutôt sur la base de la proposition du vendeur. Et bien sûr, c'est logique. Plus le bouquet est élevé, plus l'investissement initial est élevé, plus la rente sera faible derrière. Et d'ailleurs, cette rente, comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc on sait que c'est la somme que l'acheteur paie chaque mois au vendeur jusqu'à son décès. Pour calculer cette rente, on doit d'abord estimer la valeur du bien, le prix de vente actuel du marché. Et si le bien immobilier est occupé par le vendeur, comme je le répète, c'est le cas dans 95% des situations, eh bien il est nécessaire de calculer une décote que l'on calcule au choix de deux manières différentes. Le premier choix, c'est de faire un abattement forfaitaire selon l'âge du vendeur. Plus le vendeur est jeune, plus la décote est importante. Ainsi, si le vendeur est âgé d'environ 70 ans, on pourra se retrouver avec une décote de 50% sur le prix de l'appartement, ou alors si le vendeur est âgé de 90 ans, la décote sera peut-être de 20% seulement. Donc il existe également une seconde manière de calculer l'abattement lié à l'occupation du bien, et c'est basé sur l'estimation des loyers pour le bien, dans le secteur géographique et dans les environs. On estime là la durée de vie du vendeur, par exemple 15 ans si la vendresse est âgée de 75 ans, selon l'INSEE, il lui reste une durée de vie de 15 ans. Et donc on multiplie ces 15 ans par le manque à gagner en matière de loyer et on obtient la somme à déduire de la valeur du bien immobilier en multipliant le nombre d'années par le loyer annuel évalué précédemment. Alors la rente, il faut savoir, elle est réévaluée chaque année sur un index décidé au moment de l'achat, généralement l'inflation. Mais il faut savoir que cet index est libre, donc il peut être on peut le corréler plus particulièrement à l'indice des prix à la consommation ou à l'indice du coût de la construction, qui sont deux indices proposés par l'INSEE. Alors, je l'ai dit, dans cet épisode, on va s'intéresser plus particulièrement à l'acheteur en viager. L'acheteur en viager qui est appelé débit rentier, parce que c'est lui qui est le débiteur de la rente, en fait. Sur le contrat, il doit être jeune de préférence. Idéalement, une génération au moins en dessous du vendeur, afin de pouvoir jouir du bien à moyen terme. L'intérêt pour lui, entre autres choses, l'un des intérêts, est qu'il n'aura pas à emprunter à la banque, car techniquement, c'est le vendeur du viager qui lui prête l'argent, en quelque sorte. Toujours est-il qu'il fait un apport initial et qu'ensuite, il doit juste verser la rente. En procédant de cette manière, l'acheteur n'a pas à payer les intérêts du crédit immobilier. Alors l'acheteur devient techniquement immédiatement propriétaire du bien immobilier, et à ce titre, il peut revendre le viager, mais en assumant toujours le versement de la rente à son bénéficiaire. Il faut savoir que donc, en tant que propriétaire, l'acheteur a à sa charge le versement de la rente, bien sûr, mais aussi le paiement de l'impôt foncier et des grosses réparations sur le mur ou les toitures. Enfin, je viens d'insister à nouveau sur le paiement de la rente mensuelle, parce que souvent elle est mensuelle, et il faut savoir que si l'acheteur cesse de payer la rente viagère, le vendeur peut récupérer le bien immobilier en gardant tous les paiements déjà effectués en titre de dédommagement. C'est un point très important à bien comprendre avant de se lancer dans l'opération. Encore un détail qui est bon à savoir, c'est au sujet des systèmes d'héritage et si certains voulaient profiter de ce système, en fait, la rente en viager, si elle est consentie à un enfant ou un héritier potentiel, eh bien elle est assimilée à une donation au moment de la succession si aucun prix n'a été payé ou si les autres descendants n'ont pas expressément donné leur accord. Sans compter qu'il y aura probablement une enquête pour voir si le prix du viager qui a été payé était bien réaliste par rapport à un prix standard du marché. Voilà, c'était Marian pour le podcast FAQ Immobilier par Grid Paris. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager à vos amis ou à nous mettre 5 étoiles dans votre lecteur de podcast.